bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale, une bande originale toujours sur le petit Nagui, mais avec Alison Wheeler,
bonjour.
Albert Algo,
bonjour,
Pedro Guiz, évidemment, Leïla,
échange de prénoms tous les jours.
Évidemment. Salut à tous, salut Daniel Morin, et aujourd'hui,
qui est là
notre invité dans la bande originale, c'est ça tout de suite?
Oui, tout de suite, maintenant, je vois
et
qu'il est déjà installé.
Zep.
Mais c'est pas vrai.
Bonjour Zep.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Ouais, on est content de vous accueillir.
Bienvenue.
Tout à l'heure, on aura aussi en live avec nous Feu Chatterton.
Oui, Feu Chatterton sont prévus. D'ailleurs, ils sont là. Ils sont en train d'attendre. Ils nous offrir 3 titres tout à l'heure.
C'est ça. Il y aura Tanguy Pastureau aussi en deuxième partie. Pardon.
Non, on a il ne viendra peu... pas.
Ah bon, il ne viendra pas.
Si,
il
si, a... pardon, j'ai oublié.
Il a abandonné. En tout cas, non, en revenant à vous, Zep, vous venez nous présenter votre nouvel album. The End, aux éditions Rue de Sèvres. On parle beaucoup de vous, Zep, pour Titeuf, forcément, et on a la chance de découvrir depuis quelques années, moi personnellement, en tout cas votre travail un peu parallèle, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Et là, on est face à une bande dessinée, un super album qu'on n'a pas envie de lâcher parce que on est dans un thriller. D'ailleurs, je ne vais pas le lâcher de l'émission, je vais le tenir du début à la fin. C'est, on est face à un thriller écologique, et qui utilise un thème qui est un thème qui fonctionne à tous les coups, mais là particulièrement, c'est l'apocalypse, la fin du monde, The End.
Oui, bon, faut pas raconter la fin.
Non, mais alors justement...
Il y a un indice dans le titre. Donc,
ouais, c'est ça.
Ouais, c'est un gros indice.
C'est un gros indice. Tout d'un coup, vous commencez à brasser dans cet album plein de notions. On a entendu pas mal parler ces derniers temps du rapport à la nature, du rapport qu'entretiennent les arbres notamment, à l'environnement. Et comment est venue cette idée de cet album-là?
Bah, c'est justement en entendant et en lisant beaucoup de choses sur toutes ces découvertes qu'on fait autour de la communication, ce qu'on appelle maintenant l'intelligence des arbres. Et j'ai un fils qui est passionné par ce sujet-là, qui m'a raconté pas mal d'anecdotes. Et j'ai imaginé cette histoire. Et après, une fois que j'ai écrit l'histoire, je suis allé voir plusieurs spécialistes, dont le professeur Francis Allais, qui est le grand spécialiste des arbres, qui m'a beaucoup aidé justement à injecter dans cette histoire aussi beaucoup d'éléments qui sont... Alors, on est dans une fiction, mais beaucoup d'éléments scientifiques
tout
qui
à
sont
fait
réels.
Tout à fait réel.
C'est très documenté, très documenté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les découvertes et les recherches de ce professeur?
Alors oui,
très résumé.
En fait, ce qu'on a
en
découvert
en deux phrases,
pas une de plus.
Les arbres sont intelligents.
Okay.
Les arbres ont une forme d'intelligence qui n'est pas la même que les humains. Donc pendant très longtemps, on a imaginé qu'ils n'en avaient pas. Mais ils réagissent à notre présence. Ils ne poussent pas uniquement. Ils communiquent entre eux. Ils sont reliés non seulement entre eux, mais aussi par le biais du réseau des champignons souterrains sur des kilomètres et des kilomètres. Donc on pense qu'on est l'espèce supérieure, qu'on a inventé plein de choses, notamment le web, alors que le web existe dans la nature depuis très longtemps, et que les arbres ont le pouvoir de communiquer aussi avec les autres espèces vivantes, avec les animaux, qui manipulent d'une certaine manière les animaux. En fait, on se rend compte de plus en plus que toutes les espèces vivantes sur Terre sont interconnectées et participe à une espèce de mouvement général, sauf l'homme qui s'est complètement déconnecté des autres, et donc qui est persuadé d'être, dans le meilleur des cas, le protecteur des autres espèces. Alors que, je le fais dire à mon professeur d'ailleurs dans le livre, c'est pas nous qui protégeons la nature, c'est elle qui nous protège et qui nous tolère. On peut se poser la question.
Oui, c'est pas nous qui décidons.
C'est pas nous, on est persuadé que oui, mais en fait non.
Alors la bande dessinée s'ouvre avec une scène apocalyptique, on est à Santa Cruz de la Serros dans les Pyrénées espagnoles et tout d'un coup, au cours d'une balade, les marcheurs se retrouvent au sol, morts, le village entier aussi complètement décimé et tout d'un coup on fait un saut, on change d'univers, on ne sait pas pourquoi et on rencontre notre héros Théodore Atem qui va être un peu notre guide dans toute cette histoire qui va travailler auprès d'un professeur prestigieux qui a été un peu écarté, on va dire, du monde de la recherche parce que ses derniers articles n'ont pas vraiment plu, convaincu, on l'a pris un peu pour un fou.
Voilà, comme souvent les gens qui sont visionnaires dans la science mettent une idée qui va être vérifiée des années plus tard. Et lui, sa théorie, qui est là pour le coup une fiction, ça s'appelle le Codex, il a développé une théorie qui tend à imaginer que toute la mémoire de notre planète, toutes les informations qui concernent notre planète a été stockée dans l'ADN des arbres.
C'est fascinant.
Et de tous les arbres.
Dans l'ADN de tous les végétaux, en fait.
Et donc, il suffirait d'utiliser ce code ADN des arbres pour pouvoir
décrypter l'histoire de notre planète. Mais c'est pas possible parce que les arbres ont la faculté d'effacer une partie.
Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est
ça? Alors ça, c'est de la fiction. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. On sait aujourd'hui qu'une chaîne ADN d'un arbre, d'un végétal, contient non seulement la signature de l'individu, mais aussi de l'espèce. C'est-à-dire que vous avez, dans l'ADN du chêne, l'histoire du chêne. Depuis son origine, ce qui est incroyable, parce que nous, on n'a pas l'histoire de l'humanité à l'intérieur de notre chaîne ADN.
Et potentiellement l'histoire aussi de la Terre, parce qu'à partir du moment où il est relié à la Terre, il pourrait témoigner.
On sait qu'une chaîne ADN, c'est le plus grand disque dur qui existe. Ouais. Donc, de la même manière que nous, on stocke toutes nos informations dans un big data, on pourrait imaginer que la Terre stocke ces informations dans le végétal, qui est en plus une matière vivante très mouvante. Donc, c'est tout à fait imaginable. Parce que les arbres ont cette faculté que l'homme n'a pas du tout, qui est de modifier leur structure. Elle peut intervenir chimiquement, changer des choses en fonction des, comme elle peut pas.
Des circonstances.
Se protéger contre des
prédateurs,
ou la pollution, la modification de l'espace autour d'elle. L'arbre va se modifier. Donc, il pourrait aussi, par un enzyme, modifier et en effacer une partie. Et c'est la théorie du professeur, et c'est pour ça qu'il est banni de la communauté scientifique, c'est que l'arbre effacerait cette partie lorsqu'il est en présence de l'homme, puisque l'homme n'aurait pas, alors là on est dans de la fiction pure, la sagesse pour accéder à ces informations.
Il ne faudrait pas lui délivrer ce contenu-là, parce qu'il en ferait n'importe quoi.
Oui, enfin on ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, en présence de l'homme, il l'efface. Et lui a eu l'occasion d'analyser l'ADN d'un arbre préhistorique, donc avant l'apparition de l'homme, et là toutes ces informations étaient contenues.
Il y a la présence d'un méchant. D'un laboratoire.
Alors, il y a un méchant qui a un laboratoire qui va être le grand méchant soupçonné tout au long de l'histoire. En fait, ils assistent à un dérèglement, comme dans un thriller. L'environnement se dérègle petit à petit. Il y a des choses étranges. Les animaux s'approchent de plus en plus des hommes, comme s'ils ne calculaient plus leur présence. Il y a des signes dans la nature de pollution inattendue. Il y a des choses qui s'approchent d'éléments de guerre bactériologique.
Une prolifération de champignons.
Enfin, des choses pas normales dans leur conception de la normalité. Et donc, ils mènent cette enquête qui va glisser petit à petit vers autre chose et effectivement vers The End, quoi.
C'est un scénario de film ?
Alors, j'ai un ami qui m'a dit, tu as fait le scénario de science-fiction, du film de science-fiction le moins cher de l'histoire.
Ça veut dire quoi,
les personnages sont des arbres, donc ils ont des cachets assez petits. Il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas d'effets spéciaux compliqués. Il y a peu d'effets spéciaux.
Et surtout d'amour, maintenant qu'on sait qu'ils ressentent les choses, on va peut-être pouvoir les diriger sur un film. Albert, vous qui êtes le spécialiste de BD, qu'est-ce que vous avez pensé de
ça? Ce qu'il faut pas oublier, c'est il y a un grand intérêt du fond, évidemment, moi ça m'a passionné, mais il y a aussi une grande beauté de la forme chez Zep. Parce que poser les questions, ça ferait un beau scénario, mais c'est surtout une très belle BD, et déjà s'en tenir là, c'est absolument formidable. Chez Zep, c'est un formidable dessinateur, dans la mesure où quand on regarde une page de Zep, ce qu'on appelle la tabulation, tout est beau, si vous voulez. On a une première impression. Et puis ensuite, chaque case est indispensable et justifiée. Et il y a le rythme, et il y a la beauté du trait, il y a la beauté du dessin, et évidemment, qui va avec le fond. Donc c'est vraiment, on a une fois de plus, il va dire que je lui serre les pompes et que je l'ai mouillé.
Moi, j'adore écouter Albert.
Je l'ai mouillé.
Continuez.
Je l'ai mouillé à compresse, mais c'est vraiment un grand auteur de bande dessinée. Et puis, la diversité de son talent, quoi. Parce qu'on pensait évidemment à Titeuf, que vous avez cité tout à l'heure. Et puis, dans un autre genre, il se révèle et il est de meilleur en meilleur, quoi. C'est formidable. Et
puis, un rapport à la couleur. Il y a un traitement de la couleur.
Le traitement, oui.
D'album en album, je pense au dernier album pour lequel on vous avait reçu, Un bruit étrange et beau, où on était dans une autre ambiance complètement. C'est ça qui est génial chez vous. Il y a une diversité assez incroyable.
Monacal.
Oui, monacal, absolument, pour ce précédent album. Et là, j'ai été très touchée aussi par la couleur, sans pour autant l'intellectualiser et essayer de comprendre le pourquoi des variations des couleurs d'une planche à une autre, par segments en tout cas.
Comment, c'est une histoire de séquence en fait, chaque séquence.
Voilà, ouais.
Dans une bande dessinée par rapport à un film, justement, on n'a pas l'élément musical.
On va en parler de la musique.
On l'entend pas réellement, et c'est vrai que dans une histoire, c'est majeur. Enfin, au cinéma, c'est vraiment la musique qui va rythmer, qui va créer l'ambiance. Et dans la bande dessinée, moi, je trouve qu'on a l'élément qui nous permet de combler ce manque, c'est la couleur. Donc par l'ambiance colorée, on n'a pas forcément besoin de faire une couleur réaliste.
On a des atmosphères.
Mais voilà, l'atmosphère colorée va faire qu'on lit plus vite, on lit plus lentement, on est plus inquiet, on est plus apaisé.
Ça m'a fait penser à la bande dessinée de Luca Hariri, L'aimant, aussi où il y a un traitement de la couleur bien particulier, il y a une sorte d'intrigue comme ça. Pourquoi l'écologie ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ? Vous avez parlé tout à l'heure de votre fils, de tout d'un coup de ces discussions avec la découverte que les arbres étaient particulièrement intelligents, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Pourquoi cette thématique-là ?
Donc ça m'a fasciné parce que j'ai découvert, moi je n'étais pas au courant de tout ça, j'avais un intérêt pour la nature comme n'importe qui, puisqu'on vit sur cette planète, donc on doit s'en soucier un minimum, parce que si on la fout en l'air, on va être embarrassé quand même.
Mais pas nous, quoi, les enfants, en tout cas.
Oui, non, mais déjà nous, parce qu'en fait, on se crée des conditions de vie qui sont de plus en plus complexes. Mais j'ai découvert ça, donc ça me semblait être un bon... la première anecdote que j'ai entendue, qui est racontée dans l'album, c'est l'histoire des koudous du Transvaal, donc des antilopes qu'on retrouve mortes un matin dans un parc. Et les scientifiques vont mettre très longtemps à comprendre ce qui s'est passé. On va réaliser qu'elles ont été empoisonnées par les arbres.
Les acacias.
Les acacias. Et les acacias ont fait monter leur taux de tanin à un taux tellement élevé qu'il est devenu un poison violent. Donc ils tuent les antilopes, et une fois qu'elles sont mortes, enfin, aussitôt qu'elles ont croqué dans les feuilles, le tanin redescend et tout redevient normal. Donc les scientifiques analysaient les arbres, tout était normal. Ils voyaient que les antilopes avaient le ventre rempli de feuilles d'acacia. Et ça s'est répété pour réguler en fait la population de ces antilopes qui avaient été introduites par l'homme, parce que c'était un animal qui plaisait aux touristes, enfin pour les safaris. Donc on les a mis un peu massivement et ils créent un déséquilibre. Et à un moment, la nature rétablit l'équilibre. Est-ce que ce sont les acacias qui ont décidé de leur propre chef, ou est-ce qu'il y a un dessin plus général, une espèce de dessin terrestre qui décide de ça ?
Vous pensez quoi, vous ?
Moi, je pense que toutes les espèces sont connectées, qu'il y a un dessin général.
Ouais.
Mais c'est pas quelque chose de spirituel. Pour moi, c'est assez logique. On voit que les animaux mangent certaines choses. S'il y a plus assez, ils vont manger autre chose. Ils vont pas anéantir une espèce de végétaux. Alors que nous, on fait ça.
Oui.
Parce que nous, on n'est pas connectés, simplement. On est sorti de la nature, on vit dans des maisons, on est fermé, on recrée un oxygène qui nous convient. Enfin, on reconstruit un monde à l'image de la nature qui nous manque. C'est-à-dire qu'on va se créer, on a des mondes virtuels où on fabrique des forêts en 3D absolument géniales, mais alors qu'elles sont là autour de nous. Et on est en train d'établir des programmes scientifiques, aéronautiques complètement incroyables, déments de technologie et de fric, pour aller chercher une intelligence extérieure dans d'autres planètes, alors qu'on a une intelligence ici. De la nature et des arbres qui fonctionnent et qui régulent la vie ici et qu'on n'écoute pas, parce que pour nous, à part les débiter puis en faire des meubles Ikea, on voit pas à quoi ça sert. Donc je pense qu'il y a une vraie révolution qui va se passer ces prochaines années, parce qu'on est en train de découvrir cette recherche. Elle est assez récente, au fond. Elle arrive au grand public ces dernières années, donc ça va être assez intéressant ce qui va se passer.
Mais en fait, The End, au-delà d'être un thriller écologique, c'est une BD politique.
Politique.
Votre personnage principal, Théodore, c'est un activiste, un ancien activiste.
Lui, c'est un activiste. Mais après,
il vous ressemble un peu,
je trouve.
Il vous ressemble un peu.
Il a plus de cheveux que moi.
Mais ça, c'est un détail.
Par exemple, les cheveux.
Daniel, voilà. Arrêtez
c'est surfait comme
ça. Ça va, ça vient.
Ouais, cessez de soulever ce problème. C'est hyper douloureux après, parce que c'est 15 jours de discussion avec Daniel derrière. C'est hyper compliqué. Oui, c'est
même les arbres refusent d'en parler.
Mais j'ai trouvé qu'il vous ressemblait, ce personnage.
Il ressemble à mon fils, en fait.
Ah, alors.
Donc on a un ordre de famille, forcément.
Donc il y a quelque chose de très politique là-dedans.
À partir du moment où on raconte une histoire sur la manière dont on organise notre vie sociale, mais là pas entre les humains, mais entre les espèces vivantes, ça devient un projet politique. Ouais. Mais c'est très simpliste en fait. C'est nous ne sommes peut-être pas les maîtres de la Terre.
Ouais.
mais on doit aussi vivre avec les autres espèces et écouter ce qu'elles ont à dire, vu que dans l'absolu on est les derniers arrivés, donc ce serait assez logique qu'on arrive, qu'on commence par la fermer, à écouter ce que les autres.
Bon sens.
Mais d'ailleurs il y a de plus en plus de gens pour lutter contre la dépression qui vont dans des forêts faire des câlins
des
à
câlins
des
arbres.
De plus en plus.
Tu veux qu'on discute toi aussi, Alice?
Oui.
Il y a un japonais qui appelle ça les douches forestières.
Les douches forestières.
Mais, voilà. Mais c'est un truc.
Vous avez des jours de libre devant vous, on peut faire ça.
On va te présenter un platane.
C'est du bon sens. Hein. Si on se promène dans un parc, tout le monde va dire qu'il ressent quelque chose de positif.
Zeb est avec nous jusqu'à 12h30 dans la bande originale aux éditions Rue de Sèvres. Jean-Dominique Besnéard.
Yes.
J'espère que vous savez pourquoi nous avons invité Zeb.
Bien sûr. Alors, c'est dur à l'allumage. Si je puis me permettre, mon cher Daniel, ma chère Lila, pour ma dernière prestation de la saison dans cette émission, vous auriez pu choisir un invité avec un blush plus facile à prononcer. Zep. Pour moi, c'est pas fastoche. Décidément, j'aurais tout subi. Mon cher Zep, même si vous l'appelez par votre vrai nom, ce serait pas plus. Bon, remarquez, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, Guillermo Gris. Drôle de nom pour un Belge. Enfin, si je parle latin, je parle pas.
Bon, vous n'avez pas répondu à la question, Jean-Dominique.
Répondez
à la question.
Bon, alors Daniel, moi qui pensais qu'en l'absence de Nagui, qui s'accoule douce en Russie, on a entendu hier, vous seriez plus relax. Ben, je suis déçu. Et là aussi, c'est insensé comme Nagui vous influence. Juste avant l'émission, j'ai halluciné quand ce pauvre JNB, notre réacteur, vous a dit que Zeb venait ce matin. Oui. Alors, tout en le secouant et en le bifflant. Oui. Vous avez crié, Daniel, comme j'aurais pas l'outrecuidance de vous imiter, comme c'est si bien le faire Albert Algo. Bon,
c'est vrai qu'il
est sympa ce site. Tous les talents changent ça, c'est modeste, simple. Et un cordon bleu.
C'est vrai.
Un cuistot. L'autre jour, il m'a fait des coquillettes.
Enchaîné.
Oui, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de jouer votre propre partition. Oui. Donc. Daniel, vous êtes esclaffé.
Zeb, encore Zeb, décidément, mon pauvre Jinbi. Oh là là, c'est le seul auteur de BD que tu connaisses avec Riyad Satouf. Remarque, c'est un côté pratique, hein, de faire revenir Zeb. Tu pourras refourguer là les fiches que tu avais écrites pour Nagui les dernières fois.
Voilà, cher Zeb, comment c'est je ça. Prépare la bande originale.
Ah, bravo.
Ceci dit, votre BD est vraiment extra. Et même s'il arrive exactement l'inverse de ce qui se passe dans mon existence. Bah oui, moi, en tant qu'orthophoniste des stars, je passe mon temps à corriger la nature quand elle a mal fait les choses envers les hommes. Vous me suivez ? Je corrige, je redresse les défauts de prononciation, d'énonciation. Mais dans JN, c'est la nature, les arbres, qui corrigent les hommes qui lui ont fait du mal. Subtil, mon analyse, non ?
Parfait.
Bah, c'est cadeau. Allez, bonne émission.
Merci, Jean-Dominique Besnéard.
De rien.
La bande originale.
Je veux dire que le micro, il a morflé. Hein.
Il faut les sauver.
Il faudra bien 2 mois de repos. Ouais.
Bref, j'ai devenu une éponge.
Donc, merci, Jean.
Donc, ZN, le dernier album de Zeb, qui est très, très musical.
Qui est très musical, justement, parce que le professeur Frollet, qui mène toutes ses recherches et qui a avec lui toute une bande de jeunes qui le suivent un peu comme une sorte de grand maître, de grand gourou, il a un peu cet impact-là, est un fondu des Doors qui l'accompagnent, mais toute la journée, et il faut pouvoir le supporter.
This is the end, beautiful friend.
Et la musique, elle est vraiment avec This nous quand on lit la bande dessinée. Parce qu'il y a d'autres titres des Doors.
Oui, bah, il écoute de manière religieuse ce premier album des Doors.
Il en a besoin, même dans les moments un
et
peu
même,
importants.
Et même quand il n'est pas là.
Oui. Il faut qu'il laisse tomber la musique.
Que l'album continue. Ouais.
Continue même quand il s'en va.
On n'interrompt pas l'album des Doors.
Ça.
Ce qu'on va faire maintenant.
C'est ça. Non, bah, il faut continuer. Alors, c'est quoi
l'idée? C'est 11 minutes. Hein,
c'est pas grave. On peut parler pendant 11 minutes. On a jusqu'à 12h30. C'est quoi l'idée? C'est le clin d'œil au titre. Qu'est-ce qui est venu? Pourquoi tout d'un coup ce professeur est complètement fou de cette musique?
En fait, j'avais envie qu'il ait à la fois ce côté scientifique et vieux sage, mais que ce soit un ancien rebelle aussi.
Ouais.
Et donc, il est de cette génération qui a grandi avec la pop et qui écoute la musique de manière religieuse. Effectivement, c'est quelque chose de sérieux. Enfin, il écoute pas, c'est pas de la musique de fond. Quand il met son vinyle, tout s'arrête et il écoute Morrison. Et je trouvais marrant d'avoir ce parallèle entre ce bonhomme qui est voilà, un vieux scientifique dégarni et d'imaginer que c'est un ancien chevelu. Pardon de revenir à...
Encore la thématique capillaire. Rien, hein. C'est ça. Et puis, vous nous racontez aussi à travers l'album l'histoire d'une chanson, d'une histoire d'amour, un truc un petit peu paradoxal quand même.
Oui, ben, cette chanson, Diane, Morrison l'a écrite parce que sa petite copine l'a plaquée.
Ouais.
Sauf que c'est devenu, aujourd'hui, ça dépasse complètement. C'est une sorte de requiem, c'est une chanson sur la rupture, sur l'absence qui doit être passée dans toutes sortes, enfin, qui est célèbre aussi parce qu'elle est dans la BO de Apocalypse Now. Mais c'est une chanson qui est la bande originale de beaucoup de choses,
oui.
Qui dépasse de loin la bluette qu'elle était censée être.
La bluette qu'elle était censée être, des bluettes, on va peut-être en avoir, je ne sais pas, parce que nous avons nos invités pour les lives du jour. Nous accueillons Feu Chatterton, on va les accueillir parce qu'ils sont installés juste derrière moi.
Alors Feu Chatterton, ouais. Juste pour vous rafraîchir la mémoire.
Rafraîchis-nous.
Oui, premier album, c'était ça.
Madame,
notamment.
Je suis jaloux, ce nom qui vous caresse la joue, en se promenant sans Andalouse. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou, lui vient se poser contre votre peau d'acajou, quand je reste à Paname.
La Malinche, on aura l'occasion de réécouter un petit extrait tout à l'heure. Moi, j'adore ce titre, mais là, Feu Chatterton est avec nous pour nous présenter le deuxième album. Je dis deuxième parce qu'on espère qu'il y en aura plein d'autres. Et vous allez tout de suite nous interpréter, les garçons. Je vous
l'oiseau.
Présenterai juste après l'oiseau. Yeah.
Feu Chatterton, vous, l'oiseau, dans la bande originale.
Jeté par les vagues, échoue sans cesse là-bas. À présent l'orage dort sous la grève, tout gorgé d'eau, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas. Le soleil perce l'oiseau de ses rêves et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se vole-t-il au regard éteint? Moi je le crois revenu, apeuré et nu. Je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau de ses rêves et doux rayons comme des aigus, une poupée. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aiguilles, une poupée doux. Viens que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Viens que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords. Infatigable oiseau moqueur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords. Infatigable oiseau. Thank you. gars, oiseau.
Feu Chatterton dans la bande originale. Feu Chatterton qui commence sa tournée dès après-demain.
Ah bon ?
Ce sera à Clermont-Ferrand.
Ouais, c'est pour donc ce titre L'Oiseau, extrait du nouvel album L'Oiseleur. Venez vers nous, Arthur. Comme ça, j'en profite pour
faire
présenter.
Quoi ? Qu'est-ce que tu vas
faire ? Ouais, parce qu'il y a cinq garçons. Feu Chatterton, c'est cinq garçons. C'est Raphaël de Pressigny, c'est Sébastien Wolf, c'est Antoine Wilson, c'est Clément Doumic et c'est Arthur Teboul qui vient de nous rejoindre au micro.
Mais
merci,
y en a plus qu'un.
Arthur, merci d'être avec nous. Alors, faut dire que vous êtes le dernier live de l'année dans cette émission. On a gardé le meilleur pour la fin. Votre album est sorti il y a quelques semaines, L'Oiseleur. Vous êtes venu récemment ici dans cette émission avec Lara Luciani nous offrir un magnifique duo. Donc, on s'est dit, on pouvait pas passer à côté d'Arthur et de Feu Chatterton.
Mais c'est gentil.
Là, voilà. Et vraiment bravo. Alors moi je vais faire, c'est une interview fan en fait. Je vais dire à quel point j'ai adoré cet album, à quel point j'étais ravie de venir vous voir au Bataclan sur scène aussi, de voir ce que donnait cette présence. Parce que Arthur, pour vous le décrire à tous autour de la table, si vous ne connaissez pas et à la maison, c'est cette voix éraillée, c'est un peu rocailleuse, c'est cette présence.
Ouais, il faudra penser à vous soigner.
Je suis suivi.
Ouais.
Je sens le teint, c'est très très fort.
Voilà.
C'est une petite infusion, tisane. Tous les remèdes, si jamais vous avez besoin de conseils, gingembre, miel, vous procurez les meilleurs produits.
Et c'est aussi sur scène, Arthur, c'est une présence, c'est quelque chose de jouer, d'incarner, de parfois très théâtralisé, mais pas dans l'outrance, dans le ressenti. Il y a quelque chose de très vécu, très sensible. Donc c'est aussi une vraie belle performance à voir sur scène. Et ce nouvel album, pour y revenir, c'est le deuxième. J'imagine que quand on aborde un deuxième album, on a un peu les chocottes, non ?
Ouais, c'est particulier, surtout que le premier avait plu.
Très bien marché.
Dans
ces
cas-là, il y a toujours une forme de piège. Quoi. Si on refait quelque chose qui est dans la continuité, on peut nous reprocher de ne pas s'inventer à nouveau. Et si on innove,
fait très différent,
vous êtes trahi.
Finalement, il fallait partir.
Voilà.
On
aime tant la musique. C'est ça. En fait, c'est ça. Je crois que c'est bien ça. Mmh. C'est que le but, c'est pas de plaire ou d'avoir du succès. Quand on a compris ça, on continue d'en faire. Mmh. C'est-à-dire, si c'est pour chercher à une forme d'ascension, une sorte de conquête du public. Là, oui, on peut s'arrêter après le premier, faut s'en aller. Mais on est des artisans, on aime juste faire de la musique ensemble. Mm-hmm. Et pour chasser cette crainte, on s'est retrouvés tous les cinq, on a décidé de pas penser à ça. C'est Baudelaire qui disait « déplaire est un plaisir aristocratique ». On l'a essayé à un instant d'être un peu aristocratique.
Ouais, c'est un luxe, c'est un problème de riche aussi quelque part. Ouais. C'est bien de s'en affranchir juste pour créer. Et c'est un album qui est beaucoup plus varié, j'ai l'impression, que le précédent, ne serait-ce que dans les différents accents des chansons, même dans les textes, dans l'écriture, j'ai la sensation aussi que vous êtes arrivé à autre chose. Vous avez une écriture hyper poétique qui nous enrobe, qui nous emmène. Et j'ai la sensation que dans ce nouvel opus, on peut avoir, par exemple, je pense à l'ivresse que j'aime beaucoup.
Ça y voilà, ça y voilà, ça y voilà. Je suis arrête. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude. Et ma hargne se dilue dans ce liquide. Toi que je vois, dis-moi qui es-tu. Rien de grave, doc.
On est dans un univers musical un peu plus minimaliste. On est dans une scansion, un autre phrasé. On s'invente
autrement. Ouais, c'est
presque du rap, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ça
bon, c'est pas mis de limite, c'est marrant parce que comme le premier album, c'est une collection de chansons qu'on a écrites sur une quinzaine d'années, parce que c'est le premier disque, c'est une longue aventure. On se connaît depuis le lycée. Donc, il ressemblait à une sorte de recueil de nouvelles. Et celui-ci est écrit sur une année et demie. C'est long et court à la fois. Donc, c'est assez plaisant parce qu'à la fois, il nous semble à nous plus cohérent. Plus, c'est un vrai fleuve, quelque chose qui. Il y a un fil qui est continu. Et pourtant, comme on ne s'est rien interdit.
C'est hyper disparate.
Il y a toutes les couleurs.
Il y a de l'électropop aussi, si je prends Anna, par exemple.
Ouais. Anna. Quand tu ne seras.
Mais on trouve toujours votre envolée, ce côté un peu lyrique, je pense à Ginger.
Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez,
Mais ça doit être bizarre aussi parce qu'avec tous les membres du groupe, vous avez tous fait des études. Comment vous faites pour communiquer avec les autres gens du show business? Ça doit être délicat.
On s'est pas mal isolé.
Juste pour bien repréciser vos influences à vous, c'est un peu la question bateau qu'on pose souvent aux artistes, mais c'est important souvent pour placer un petit peu un contexte, parce que pour ceux qui vous découvrent ou ceux qui vous ont entendu sans forcément s'apesantir sur votre musique, vous vous donneriez quoi comme référence?
Bah on est entre, enfin ce qu'on aime c'est Gainsbourg et Led Zeppelin, ouais. comme Zepp. C'est le rock progressif anglo-saxon des années 70 jusqu'à aujourd'hui, passant par Radiohead,
ouais.
Et la grande chanson qui va de Brel à Bachung. Enfin ce qui nous plaît c'est toujours de raconter des histoires, c'est pour ça qu'on se permet parfois des orchestrations très très rock 70s, parfois de la new wave, tant que ça sert le propos. Tant qu'on essaye de faire des scènes de film, quoi que ce soit évocateur, on y va. Et c'est pour ça qu'on aime en fait généralement les groupes ou les artistes qui ont cette audace, cette liberté, et qui trouvent un équilibre entre la musique et, mm-hmm. et la parole. Et cet équilibre en France, il est assez rare.
Et qu'est-ce que vous faites entre le moment où vous écrivez une chanson et le moment où vous allez le jouer sur scène? Parce que finalement, on écrit pour ça aussi, pour rencontrer un public, et il y a un laps de temps à combler, on fait quoi?
On travaille. En fait, les deux moments les plus excitants, c'est la première étincelle, quand le début ouais. d'une chanson arrive.
Ouais.
Et on sent qu'on a fixé un sentiment avec quelques mots et une mélodie, et que là, ça devient une sorte d'amulette. Et on va travailler ça. Et le dernier moment où on partage cette émotion qu'on a essayé de capturer sur scène. Mmh. Et tout le trajet de cette première étincelle au moment où on le partage sur scène, c'est que des obstacles, c'est que des risques où l'émotion va se disperser. Il faut essayer de toujours la rassembler pour qu'à la fin sur scène on arrive à transmettre cette chose qu'on a vécue en fait.
Mais rester fidèle à la première étincelle.
Oui, il y a quelque chose qu'on a vu ou qu'on a ressenti. Parfois c'est la couleur d'une robe, parfois l'irisation, je sais pas, d'une feuille, d'un arbre à une heure de l'après-midi.
On y revient aux arbres, Zep.
C'est presque rien, des parfums, la mer, une présence un peu divine, une sorte de voile qui ondule, le voile de la vie qui ondule parfois, et on a l'impression qu'il y a quelque chose derrière, on le ressent d'infimes instants, subrepticement.
Ouais.
Comment on fait pour le partager derrière sur scène, c'est très laborieux. Alors quand on y arrive et qu'il y a des moments de grâce, ce qu'on recherche, cette ouais. intensité de l'instant, c'est jouissif.
Alors vous étiez sur scène le week-end dernier à Solidays, là vous continuez une tournée, vous avez déjà fait une grosse tournée pour le premier album, plus de 200 dates je crois, hein,
ouais,
quelque chose de cet ordre-là.
Ouais.
Et là vous allez enchaîner, donc on peut vous retrouver demain à Clermont-Ferrand, c'est ça?
Après-demain à Clermont.
Après-demain, c'est le 29, ouais, après-demain.
Enfin, si vous voulez à Clermont demain,
oui. prenez de l'avance, préparez-vous, il faut se mettre un peu dans l'ambiance, hein. Chatterton. Ensuite très rapidement, Île des Ambiers, à Mont, à Aix-les-Bains, Brioux, Nyon, Vence, Verdun, je vais faire comme Nagui, je vais faire toutes les villes. J'adore quand il fait ça. Et puis je vais sauter les noms que j'arrive pas à prononcer. Mais en tout cas, vous avez une tournée comme ça qui est prévue de Marseille jusqu'à fin août. 25 août, par exemple, c'est à Namur. Je crois que c'est pas loin du festival intime de Poulvord. En plus, c'est pas mal. En septembre, même chose. Au mois d'octobre, on va vous mettre toutes les dates.
Ouais,
et on s'arrête aussi sur Nantes le 13 décembre, sur Metz le 12 janvier. Janvier et Paris, quand même, il faut le noter, le 24 janvier au Zénith.
Ouais, on fait un Zénith le 24
Alors
janvier.
Alors ça doit être complètement dingue dans la vie d'un groupe, un
ouais,
Zénith.
Ouais, c'est vrai que c'est un rêve de gamin, on est parisiens.
Ouais.
Donc quand on allait voir des concerts petits, c'est là-bas qu'on allait. Mm. Et on s'est demandé d'avoir un temps, comment fallait le faire. On a décidé de ne pas être de faux snob, de mauvais snob. Et c'est un rêve de jouer dans des grandes salles comme ça.
Est-ce qu'on tient un public de la même façon dans une grande
salle?
Non,
pas du tout, mais c'est un défi aussi. Mmh. Et ça, on aime ce genre de moment où on sait que tout n'est pas gagné du tout. Ronronner, le confort, c'est ça qui est risqué quand on essaie d'inventer.
Ouais.
Donc là, c'est en janvier, on va préparer un spectacle unique pour cette occasion. On pense à plein de choses pour réussir à recréer aussi une intimité que nous, on aime avoir avec notre public sur scène, où il y a un rapport... un partage très intense, qui n'est pas un pur rapport de consommation
oui.
unilatérale.
Ça passe quoi par un décor de scène, par une façon d'entrer, de s'adresser, d'enchaîner la setlist
ouais,
aussi.
Ouais, bien sûr. Aussi, il y a forcément des écrans dans ce genre de salle.
Ouais.
Comment on crée une intimité avec ça? Je pense qu'il y aura des gens sur scène avec nous,
mm-hmm.
au cœur de la scène, pour que le film soit un vrai film et pas seulement un zoom.
Ouais.
Bon, voilà, on pense à plein de nouvelles choses. Peut-être d'inviter des gens. Il y aura des surprises. ce sera une sorte de point d'orgue de ce deuxième album.
La fête de Feu Chatterton.
Ouais, il faut.
La fête de Feu Chatterton.
Feu Chatterton, on vous retrouve tout à l'heure pour une reprise.
Ouais.
Ouais, bah, c'est l'été, quoi.
C'est l'été, donc ce sera l'amour à la plage. Feu Chatterton, qu'on retrouve tout à l'heure.
Merci.
France Inter. La bande originale.
Bande originale avec Zeb pour l'excellent album The End aux éditions
Zep
Rue de Sèvres.
Pas Zeb, Zeb.
Zeb.
C'est un nouveau dessinateur.
Ben ça change
c'est
un petit peu.
C'est un petit rhume en
Zeb,
même temps.
Zeb pour Titeuf et Zeb pour le reste. Moi, je alternance.
Ça, ouais,
c'est bien. Bravo.
Écoutez, vous êtes là, Zeb. Restez. Hein. Zeb, eh ben, c'est absent. Donc, on va rester avec vous.
Désolé.
Elle, je ne sais pas comment l'appeler. Ah, bah si, Alison Wheeler. Alison Wheeler, pour sa grande humeur.
Oui. Bonjour à tous, bonjour la France, bonjour Leïla, bonjour les gens qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent pas aussi. Je suis de super bonne humeur aujourd'hui, pas de doute, ça sent la fin de saison. Regardez tout le monde à la banane, je vois Albert qui a ramené son docteur Maboul, Leïla les gâteaux de sa maman et Daniel un DVD porno hyper gênant, c'est pas le moment.
Bah tu jouais dedans, c'est pour ça que...
L'été, j'attends ça toute l'année. Enfin me retrouver au calme. D'ailleurs j'ai un petit endroit secret où j'aime bien aller me ressourcer pendant l'été, un petit coin de paradis. Rien à voir avec les WC de Vanessa. C'est une petite plage cachée dans le sud de la France, nichée dans une crique. Pour cette dernière de la saison, j'ai envie de peindre le studio aux couleurs de l'été. Allez, aujourd'hui on ouvre France Inter Plage. Fermez les yeux, imaginez que vous êtes au bord de la mer. Vous entendez le bruit des vagues, des clapotis, les oiseaux. Au loin, Pamela Anderson qui court au ralenti sur la plage. Adil Rami qui la poursuit en criant « Et ma moustache, je suis là ma moustache !» Il y a de la place, on est bien là. Et pourtant, une famille qui se colle à votre service. Mais putain, mais c'est pas vrai! Mais vous respectez rien, bon sang, il y a de la plage partout, vous venez à côté de moi. C'est ma plage abandonnée. Ma plage abandonnée aux touristes. Sur la plage abandonnée, je suis seule face à la mer. Calogero dans ma tête me fait la misère. Je vais bouffer ma crème solaire. Je me pose un peu à l'écart. Je fais des tas d'épinards pour faire fuir les enfants, ces petits connards qui veulent mater mes nibards. Je fais des moustaches à Jennifer qui refait la couverture de Closer. En plus galère à finir leurs mots fléchés. L'été j'ai le QI d'un crustacé. La petite vieille qui dort à côté par le soleil carbonisé. Je m'approche avec un bâton pour vérifier qu'elle bougeait, n'est pas décédée. Avec moi, personne veut jouer aux raquettes ou au beach volley. Soi-disant parce qu'à chaque fois que je perds, je crie et j'insulte leur mère. J'explore les fonds marins, je nage avec mon masque et c'est magique. Je croise un type qui se soulage et je m'étouffe avec un sac plastique. Sur la plage ensoleillée, l'exomil chouchou baigné. Elle arrive déjà si vite la rentrée. En fait je veux bien y rester. Sur la plage ensoleillée, sur ma plage ensoleillée.
Ensoleillée. Ah, ouais. Heureusement que je suis là, alors. Alison Wheeler.
La bande originale. Sur France Inter.
Tu peux toujours compter sur Daniel, c'est ça qui est bien.
C'était pas difficile. Ensoleillé.
C'est ça, c'est la camaraderie, c'est la camaraderie.
Non, sérieux, quoi.
Mais il y avait un duo à la fin, c'était bien.
Ouais, ah. Promis. Ouais.
Merci Zeb, vous êtes revenu, je suis content parce qu'il y avait un Zeb qui traînait dans le coin.
Il est chiant Zeb, non,
il est hyper lourd. Mais on est ravis Zeb pour cette bande dessinée, donc l'écologie, on parlait de la plage. Finalement l'idée c'est, et si on était simplement des hôtes sur cette planète et non pas les propriétaires de cette terre. En gros, si je dois donner un peu la baseline de ce thriller écologique, c'est comme ça que vous l'avez pensé. Alors tout à l'heure, on a évoqué La vie secrète des arbres, ce bouquin qui a fait un carton incroyable. Vous l'avez lu avant pour vous documenter ou pas, celui-ci ?
Je l'ai lu après, mais en fait, j'avais lu ce livre, c'est aussi une sorte de digest de tout ce qui a été découvert. Donc, j'avais lu toutes ces recherches-là de diverses personnes. Lui en fait une bonne synthèse. Après, il y a quelque chose dans ce livre qui irrite beaucoup de botanistes, c'est que il a une approche très anthropomorphique, c'est-à-dire que souvent, il est pour expliquer ce que font les arbres, il les compare aux hommes. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que les arbres ont des facultés que les hommes n'ont pas. Donc ça va au-delà, c'est pas juste, ils sont pas juste comme nous et ils font des choses comme nous, mais ils font beaucoup de choses qui sont pas de notre capacité. Donc voilà, c'est le défaut qu'on peut accorder à ce livre, mais en même temps, il a la grande qualité de vulgariser tout ça et de le rendre complètement accessible au grand public, et c'est vachement bien, parce que je pense que des millions de gens ont découvert cette intelligence des arbres à travers lui.
Et à travers cette bande dessinée aussi, un voyage musical. On a parlé de The End, forcément, le titre éponyme de cette bande dessinée, mais on a aussi pour The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. Une émission assez musicale avec Feu Chatterton, à l'instant avec Alison Wheeler sur la plage ensoleillée. Ah oui. Ça tombe bien parce qu'il faut qu'on passe à la bande originale de votre vie, et c'est en musique.
Oui, en musique, la bande originale de Zep, et ça commence en 1967. Jean Dassin, les Dalton, 67, c'est votre année de naissance. Mmh.
La même année que l'album des Doors. Mais en France, c'était les Dalton.
Voilà. Autre ambiance.
Oui, c'est une autre culture.
Et à partir de quel âge on prend les crayons ?
Est-ce qu'on prend... assez vite, je pense. 3-4 ans.
Mais comme tous les enfants, j'imagine.
Oui, comme tous les enfants.
Mais dans quelle mesure les parents, parce qu'il y a toujours l'histoire parentale qui revoit rétrospectivement en disant à quel point ils faisaient des dessins intéressants depuis sa prime enfance.
Mes parents aimaient bien la bande dessinée. Donc il y avait des bandes dessinées à la maison et je recopiais comme un enfant les bandes dessinées qui étaient là. Ouais. Et il y avait du papier à profusion. Et ça, c'est vachement important en fait. Parce qu'un enfant, si vous lui donnez une feuille de papier, il va vachement hésiter, il doit s'appliquer, il doit réussir son chef-d'œuvre. Moi, j'avais une pile.
C'est pas très écolo, quoi.
Oui, c'est pour vous faire. C'est pour vous faire pardonner que vous faites cette belle
émission. On parle des arbres. Donc profusion de papier et vraiment cette envie d'être dessinateur de bande dessinée sans pour autant en connaître autour de vous.
Naïvement, je voyais des bandes dessinées, j'avais envie de faire la même chose. Ouais. Je savais même pas que c'était un métier, mais j'avais envie de faire ça.
Et envie d'en vendre déjà des petits, faire des petits, parce que souvent il y a quand même
faire du fric,
C'est vrai que c'est souvent le cas.
Je faisais des bandes dessinées quand je suis rentré à l'école. J'étais le dessinateur de l'école. Mais un peu par défaut, enfin, je pouvais pas être le sportif, j'étais plus petit que tous les autres, donc c'était un bon truc d'être dessinateur. Et en fait, souvent ça bascule sur une vocation artistique, elle bascule sur des détails, parfois sur un malentendu même. Moi j'avais dessiné, je vous regarde pas pour le malentendu, pardon, mais parce que je pense qu'on a tous une anecdote sur de quelle manière ça démarre.
Je pensais que je dessinerais, pas du tout, mais... Voilà, c'est vrai qu'il y a des moments
c'est possible
comme ça.
Moi, je pensais que je ferais de la musique aussi.
Ce qui est bien, c'est que Feu Chatterton est resté avec nous, donc on continue tous ensemble.
Et en fait, je dessinais des têtes de personnages. Et j'avais dessiné un monsieur avec une moustache et des lunettes. Mmh. Et mon oncle avait une moustache et des lunettes. Et donc, ma mère passe, elle dit « Incroyable, c'est le portrait de tonton Guy ». Et elle était fascinée par ce truc. Elle l'a affiché dans la cuisine. Il est resté affiché, je pense, des années dans la cuisine. Et tout le monde s'émerveillait de cette ressemblance qui n'était pas du tout volontaire, c'était un pur hasard. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé à ma vocation. Je me suis dit, au fond, j'ai beaucoup de talent comme dessinateur.
Ouais, et puis c'est une maîtresse aussi qui a signalé à vos parents qu'il y avait quand même un petit quelque chose.
Oui.
Bah, c'est comme pour Daniel. Hein.
La maîtresse, tu veux dire?
Oui, mais en ce moment.
Ah oui, d'accord, ok. On enchaîne.
Participer à un cours d'art plastique, voilà, c'était une maîtresse quand vous aviez 6 ans apparemment. On passe à 1985, où vous écoutiez.
Bob Dylan, magnifique. Et c'était une époque où c'était très... Bob Dylan était très mystérieux, il apparaissait peu sur scène, on trouvait pas encore Internet, donc c'était très dur d'avoir des informations sur lui, il donnait plus d'interviews, et c'était souvent vachement plus intéressant d'entendre des enregistrements pirates que les enregistrements officiels. Ouais. Parce qu'il était génial, il avait des moments de grâce magnifiques, mais qui n'étaient pas forcément gravés sur les disques. Donc il y a tout un jeu pour les fans de Dylan de trouver ces éléments. Et ça, c'est un album un album live officiel avec cette chanson qui est sublime, quoi, cette version d'une chanson de 75, je crois.
Votre professeur aurait pu écouter Dylan dans l'album, ça aurait été un choix possible.
Il aurait pu, mais mais voilà, je pense que je me serais trop identifié.
Déjà qu'il vous ressemble.
D'abord, j'avais prévu de lui faire écouter l'album blanc des Beatles, ouais, parce qu'il y a cette face entière de musique concrète. Et j'imaginais que c'était encore plus une torture pour ceux qui travaillaient avec lui. Mais le problème, c'est que de mettre en bande son dans l'album Obladi Oblada, je trouvais que ça donnait un côté un peu cucu.
Un peu youplaboum, mmh, ouais, c'est ça. En 85, vous êtes engagé à Spirou. Et là, à Bruxelles. C'est une consécration, ça, quand on est un jeune dessinateur. On se dit, voilà, ma carrière, elle commence là, elle s'arrêtera là.
Ça y est, c'est fait. Ouais, exactement. Ouais. Ce qui est complètement faux, en fait. Mais j'étais hyper content d'être engagé à Spirou. Pour moi, c'était un journal légendaire. Et sauf que tous les gens que j'avais admirés n'étaient plus dans le journal. C'était plus qu'une enveloppe qui avait porté ces gens-là. Et c'était pas la meilleure époque du journal. Voilà, donc j'ai végété pendant quelques années dans le magazine en proposant plusieurs personnages, en proposant plusieurs histoires, dont Titeuf d'ailleurs, qu'ils ont refusé.
Et, ils ont du nez,
et puis voilà, pour finir, j'ai fini par partir, mais je garde des liens avec. D'ailleurs, je suis toujours abonné, je reçois toujours le journal depuis 30 ans.
Et vous le lisez vraiment ?
Je regarde ce qui se passe, je regarde ce que font mes copains.
Hein. Je regarde, mais je ne le lis pas. Voilà, ça leur apprend à m'avoir déçu. Allez, un grand bond dans le temps à présent, en passant en 2004. Vincent Malone.
Ah ouais, Vincent Malone. Ça, c'est génial ce disque, le roi de la trompette. C'est une version de Walking on the Wild Side.
Et là, c'est la récompense à Angoulême, voilà. 2004.
Ouais, ouais.
Le grand prix qui couronne, là, pour le coup, là, on rentre à Spirou, on croit qu'on y est, on a le prix Angoulême, on se dit, qu'est-ce qu'on fait après, en termes de récompense?
Oui, bon, après, on fait pas ça pour... Non, comme disait Arthur, on fait pas ça pour la reconnaissance. Ça fait super plaisir. C'est un encouragement, mais
on le fait pas vraiment pour la reconnaissance quand même, pas un peu. Si on est hyper honnête.
Enfin, moi sûrement un petit peu, ouais.
Merci Arthur. Non, mais il y a ce moment, on fait pour soi, et on est tellement excité qu'on veut le partager. Et alors, on a envie.
Vous qui avez fait partie du jury, Albert, ça représente quoi pour un dessinateur d'obtenir le Grand Prix à Angoulême?
C'est à la fois une consécration et un élan pour la suite. Moi, c'est pas un arrêt où le mec, moins qu'il ait un melon magnifique et puis il se dit ça y est, je suis immortel.
Bah, mais c'est rare que les gens arrêtent après. Il y en a qui arrêtent parce qu'ils le reçoivent à 95 ans et après
comme les Césars d'honneur ou les.
Voilà. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est un prix qui est remis par le collège de la profession. C'est-à-dire que c'était ceux qui avaient reçu le grand prix qui remettaient le grand prix suivant.
Oui, c'était une magnifique récompense.
Donc oui, c'était assez beau.
Et la même année, c'est Titeuf qui rentre au musée Grévin.
Ouais.
Double consécration, c'est ça. Double représentation.
Et n'oublions pas la troisième consécration, c'est que Titeuf a été interviewé par Laurent Delahousse.
C'est vrai.
Quelques années plus tard, c'était pour la sortie du film.
Et là, c'était combat de coiffure. Eh oui, là, c'était le grand duel, le grand choc.
Je ne saurais pas dire ça.
Je sais que c'est ton grand ami. Vous avez entendu, ils sont en train de vérifier si les instruments marchent bien. On retrouve Feu Chatterton pour une reprise de L'amour à la plage. Attention, au cœur, il y a Alison Wheeler.
Mais c'est pas possible.
Sur la plage ensoleillée. danse. C'est le temps de la danse entre tes bras toutes les nuits. Oui. Et si j'ai le cœur tout retourné, là je t'embrasserai jusqu'à la fin de l'été. Alison, si l'amour à la plage, ah ou cha cha cha, et mes yeux dans tes yeux, ah ou, les coquillages, ah ou cha cha cha, entre toi et le bleu, si l'amour à la plage, ah ou cha cha cha. Et mes yeux dans tes yeux, ah ou, ah ou, baiser coquillage, ah ou, cha cha cha, entre toi et le bleu. Entre toi et le bleu, si l'amour à la plage, ah ou cha cha cha, mes yeux dans tes yeux, ah ou, ah ou, baiser coquillage, ah ou cha cha cha, entre toi et le bleu.
L'amour à la plage, revu par Feu Chatterton.
Et corrigé par Alison Krieger.
C'est clair. Arthur Teboul, Raphaël de Pressigny, Sébastien Wolf, Antoine Wilson, Clément Doumic, ces cinq garçons-là, c'est Feu Chatterton.
Wow.
Ils nous ont sorti il y a quelques semaines à peine l'album L'Oiseleur, leur deuxième album. Écoutez-le, achetez-le et allez les voir sur scène à partir du 29 à Clermont-Ferrand, à Isle-les-Ambiers, à Mont, Aix-les-Bains, Briouze, Nyon, Vence, Verdun, Aulnoy-Aymeri. Ça passera par Namur, par Landerneau, Genève, par Troyes, par Saint-Lô, Le Mans, Nantes, Metz, Bruxelles, Paris le 24 janvier, Creil le 23 mars notamment, avec plein de dates à venir. Regardez sur le site, vous saurez tout sur Feu Chatterton.
Ils seront également présents en deuxième heure pour nous chanter un troisième titre en live.
Ben ouais, forcément. On va pas laisser partir comme ça.
Mais oui.
Zep est avec nous pour The End aux éditions Rue.
Tu l'as bien dit.
Je l'ai dit. Avec Jean-Dominique en face de moi.
Avec une bande dessinée qu'on n'a pas envie de lâcher. The End aux Rue de Sèvres. C'est un très très bel objet aussi. À chaque fois, vos bandes dessinées sont des objets qu'on collectionne parce qu'il y a une sorte d'évolution dans l'univers graphique, j'ai l'impression. Alors c'est infime. Comment est-ce que vous, quel regard vous portez sur l'évolution de votre travail? D'album en album, au-delà de Titeuf. Dans quelle recherche esthétique vous êtes, vous ?
De plus en plus, on peut faire les livres qu'on a envie de faire au niveau de l'objet aussi. Ouais. Avant, la bande dessinée, c'était vraiment formaté, c'est-à-dire que c'était toujours le même nombre de pages, le même format, avec un papier un peu brillant, une couverture brillante comme ça, qui ressemblait aux albums d'Astérix, en gros. Et maintenant, depuis quelques années, il y a aussi un souci de faire... des objets un peu différents selon l'histoire qu'on raconte. Le choix du papier, choix des couleurs, l'impression.
Ça prend longtemps à décider.
Bah, une fois qu'on a trouvé un papier qui va bien avec son dessin, c'est con à dire, hein, mais c'est important aussi. Et je pense que tous les gens qui font des livres vont vous dire, le premier truc qu'ils font, c'est quand ils reçoivent le livre, ils l'ouvrent.
Ils le sniffent.
Et ils respirent l'odeur qu'il a. Donc ça participe aussi au plaisir de la lecture. Et je pense qu'on a aussi la chance dans la bande dessinée, on parle beaucoup de dématérialisation, de faire un métier qui est encore très matérialisé. C'est-à-dire que les gens qui lisent de la bande dessinée, ils ont envie de lire, d'avoir un objet de livre. La bande dessinée existe sous forme numérique, mais c'est quelque chose qui marche très peu.
Qui peine à entrer dans les usages.
On a envie de tourner des pages. Et puis
il y a quelque chose... son ordinateur, non, ça apporte pas grand-chose.
Ça dépend de ce que vous avez mangé avant.
Mais c'est pas faux. Ça dépend de la soirée aussi.
Et puis il y a quelque chose aussi dans ce style de lecture, c'est-à-dire que la bande dessinée, on ouvre un album et on a une séquence qui s'étale sur une double page. Et c'est pas, on va pas la lire case par case, mais on voit toute une séquence qu'après on détaille. Et tout ça, c'est des choses que, quand on la dessine, qui sont importantes.
Est-ce que c'est du papier recyclé?
C'est du papier. Alors maintenant, on fait du papier. On appelle ça du papier respectueux, c'est-à-dire qu'on n'abat plus des arbres pour faire du papier. On coupe du bois, mais on n'abat pas des arbres.
D'accord, on coupe le bois, mais on laisse l'arbre. Zep est avec nous jusqu'à midi et demi.
J'aime bien cette petite façon de ponctuer. On reprend la phrase, c'est-à-dire pour plus tard, on garde cette phrase, on voit ce qu'on en fait. Ça fait un
peu. Mais j'imagine l'arbre tout nu, juste le tronc comme ça. Je fais, j'attends que ça repousse pour une autre BD. Mais bon, voilà. Zep est avec nous pour The End aux éditions Rue de Sèvres. On en parle jusqu'à midi et demi. Mais avant de se séparer, nous allons savoir de quoi Tanguy Pastureau va nous parler. Je crois qu'il il est inquiet à cause d'un chamoine qui nous dirige, Tanguy. C'est
oui,
bien ça.
Oui, chamoine d'or. C'est le chamoine d'or. Macron qui a été décoré par François le pape cool qui lave les pieds des gens, ce qui est le meilleur moyen de choper des mycoses. Je serais lui, je leur donnerais du Tahiti douche en leur disant débrouille-toi bébé. Macron n'est plus Manu, c'est un demi-saint.
Un demi-saint et Zep ainsi que Feu Chatterton, c'est dans la dernière partie de l'émission. Et le retour de la bande originale avec Alison Wheeler. Meryl Gou.
Bonjour.
Pépito Guiz.
Pépito.
Maggie n'est toujours pas là, mais nous sommes en compagnie également évidemment de Leïla.
Salut Daniel.
Feu Chatterton viendra voir son troisième titre en live. Et aujourd'hui, Leïla, nous avons la chance de recevoir...
Pas Zeb, mais Zeb. Zeb qui nous rend visite pour un très très bel album, The End, aux éditions Rue de Sèvres. Et si on imaginait que la nature avait plus de pouvoir que nous, et si c'était tout simplement vrai, et si on se plongeait dans un album captivant, un thriller écologique, un thriller politique aussi. Derrière ces bulles, il y a un message qui est annoncé, et un héros que l'on suit avec beaucoup d'intensité dans ses aventures, et s'il était le dernier des survivants. On dévoile rien, l'aventure est complexe et on apprend énormément de choses dans cette bande dessinée. Zep, est-ce qu'il y a une appréhension encore particulière pour vous de présenter un album depuis tout ce temps, avec tous ces succès?
Ah ouais, bien sûr, ouais. Bah, à chaque fois qu'il y a un album, il y a l'excitation, on en est plus ou moins content quand il sort, et quand on est très content, on a envie que tous les gens qui le lisent soient aussi contents que nous. Donc c'est une surprise, on ne sait jamais comment ça va être accueilli. Et celui-là, est, évidemment, n'a pas une sortie comme un Titeuf. Et de semaine en semaine, il y a eu un accueil qui a été de plus en plus fort. Donc ça fait vachement plaisir parce qu'on s'aperçoit que l'histoire a touché les gens. Ouais. Beaucoup de gens me disent, voilà, je l'ai lu, et après je l'ai offert à des gens autour de moi. Mmh. Enfin, donc c'est assez beau quand un livre a cette vie-là.
À ce chemin-là. Et qui sont vos premiers lecteurs à vous, Zep?
C'est mon éditrice là sur cet album. Je fais pas tellement lire je suis en train de travailler à beaucoup de monde. Mon épouse lit généralement aussi, mais même pas toujours.
Parce que c'est lui qui inspire quand même Théodore physiquement en tout cas.
Oui. Alors je lui ai fait lire en partie l'album, mais pas tout. C'est toujours un peu casse-gueule de faire lire l'album quand on est en train de le faire, parce que quand il y a des moments où on doute un peu du truc et qu'on le fait lire à quelqu'un. Et qui confirme votre doute en lisant et en faisant ouais. Il vaut mieux que ce soit pas quelqu'un de trop proche, sinon ça pourrit un peu l'ambiance.
Et c'est un album aussi qui est accompagné d'une bande son qui est dans notre tête et qui peut être déclenchée à tout moment quand on est dans son canapé à la maison. On peut avoir envie d'écouter les Doors, comme ce professeur qui est à la pointe de la recherche en ce qui concerne la communication entre les arbres. On a évoqué The End qui reprend le titre de cette bande dessinée, Light My Fire. On peut aussi aller sur Riders on the Storm. Tout de suite, on est bien, je trouve.
C'est cool, ça. C'est vraiment, franchement. Fin de journée, un verre à la main.
Voilà, avec modération.
Ouais,
c'est un verre d'eau, quoi.
Verre d'eau,
évidemment.
Verre d'eau.
Pour se détendre. Le sens de la fête, il est là.
Mais pourtant, t'essayes d'arrêter, toi, Daniel Lowe.
J'essaye d'arrêter.
Vous essayez de me faire passer pour une alcoolique depuis deux semaines. Alors, j'essaie d'envoyer d'autres informations, n'est-ce pas, Guillermo? On en reparlera un de ces quatre.
Ne le réveille pas, le pauvre Guillermo. Il faut rappeler aussi que c'est une intrigue. Au départ, il y a quand même des morts qu'on retrouve au pied des Pyrénées espagnoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute une enquête. Alors, attention, maintenant.
J'adore.
Mais si, c'est vrai, on l'a pas dit. Il est là, il est avec nous, il maltraite l'info, il s'appelle
Tanguy Pastureau.
Non, Tanguy, vous allez encore nous parler du président Macron.
Oui, Daniel, j'y peux rien, il est partout. Il a plus la patate que la femme de Christopher Froome si elle s'était assise sur la chaise à seringue de son mari. Oh, jeudi dernier, il était à Bloc à faire la jaille avec des danseurs en cuir, ainsi que Brigitte, la nouvelle icône gay après Chantal Goya, Mylène Farmer et Noël Mamère, pour ceux de la mouvance Teddy Bear qui aiment les poils. On se disait, Manu, il va tout plaquer, il se taillait à Mykonos ou nu dans les vagues, il éblouira la poiscaille par son anatomie. Résultat, hier, il était au Vatican et on se retrouve avec un premier communiant, Saint Manu, bien peigné qui sent le savon. Sa tête va finir sous forme de chocolat sur les petits écoliers de la marque Lu. Macron, c'est un caméléon. Un jour, il fait la fiesta avec DJ Ladal au club Kalimba. 24 heures plus tard, il s'adresse à Dieu en lui disant « Bonhomme, t'enflamme pas, c'est toi qu'on a fait à mon image et pas le contraire. » C'est un être pluriel. Ils sont 27 là-dedans. Comme dans une Allemande un peu chaude l'été sur une plage coquine des Landes. Et il a rencontré la star de la chrétienté, François, le Rihanna des papes. Il fait des selfies, des checks, des massages, des pieds gratos. Toutes les Chinoises qui font ça en salon, ils doivent payer les charges sociales, crient à la concurrence déloyale. Ils ont discuté pendant 57 minutes, plus long entretien avec un chef d'État depuis l'entrée de François dans le F400 en or. Macron, c'est une pipelette. Vous le mettez face à Luchini, vous les laissez tchatcher, il y en a pour 16 jours. Et TF1 en fait une épreuve de Koh-Lanta. Hollande n'avait parlé que 35 minutes avec le pape en 2016, parce qu'il avait la spiritualité d'un ficus mort. Ce qu'il branchait, c'était les chouquettes. Chez Batnet, il tenait 2 heures. Mais Macron, ce n'est pas un païen comme l'autre laïcard de Tulle qui, à sa mort, finira dans le purgatoire à bouffer de la salade de quinoa. Il a tout fait. Il a été baptisé, est allé en collège jésuite où il a rencontré Brigitte, qui était prof. Elle ne savait pas, en le regardant en train de suinter du sébum dans son t-shirt Snoopy, qu'il serait marié un jour. Bref, l'église y maîtrise. Il peut citer tous les saints. Alors qu'un mec comme Strauss-Kahn, vous lui demandez ça, il répond en poire et en pomme. Puis Macron a offert au pape un cadeau, une édition originale du journal d'un curé de campagne de Bernanos. François était déçu, ça lui rappelle le boulot. Il aurait préféré le bondage pour les nuls ou un pass VIP pour le Hellfest de l'an prochain. Un truc qu'il dépayse. Là, c'était aussi convenu que d'offrir un costume à François Fillon.
Et le pape Tanguy, en échange, lui a aussi fait un cadeau au président Macron.
Mais oui, il lui a offert une médaille en bronze de Saint-Martin qui divise son manteau et l'offre à un pauvre. Ce qui est totalement con, parce que l'autre reste pauvre, mais en plus a un look pourri. Une moitié de manteau, à part si vous avez piqué un nudes en Arabie Saoudite et qu'on vous coupe un bras, ça se porte très mal. Hein. Jamais Christina Cordula ne dira « Mon chéri, enfile donc cette moitié de pull. J'ai filé l'autre partie à un pauvre dont Stéphane Plaza repeint la bicoque dégueu pour tenter de la refourguer à un jeune couple qui n'a pas une thune. » Après l'échange de cadeaux, Macron, alias Tactilman, hein, l'homme qui tripote, on a l'impression qu'il a 8 pattes comme Vishnu, l'araignée gypsy, a posé sa main gluante de frotteur fou sur l'épaule du pape, alors qu'en théorie, on ne le touche pas. Quand il fait de l'acupuncture, le praticien se recule à 4 mètres et lance les aiguilles sur François, comme lors d'une partie de fléchette. S'il met dans un téton, ça vaut 50 points. Et Macron lui a même fait une papouille sur la joue. C'est le seul homme à être plus démonstratif que son chien. Moi, le mien me lèche la moitié de ça. Je lui dis « Désolé, Daniel. » Oui, je l'ai appelé comme vous, Morin, parce que vous êtes toiletté pareil, c'est-à-dire pas trop. Mais je te laisse à la SPA. Alors, le pape séduit par Macron, parce qu'il est plus sexy qu'une jarretière en dentelle enfilée à la lueur de la bougie par une milf bien épilée. C'est donc dit, je vais le décorer, et pas avec des boules, Noël, c'est dans 6 mois. Et il l'a fait chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran. Tradition remontant à Henri IV. À ce moment-là, Gérard Collomb, qui était du voyage, s'est dit crier, ah bah oui, je l'ai bien connu, IV. C'était mon riton. Il a été dessoudé par un terroriste, Ravaillac, hein, au cri d'Allah Akbar, enfin je crois. Mais Macron est aussi co-prince d'Andorre, ce qui consiste à y aller quand il veut pour acheter des clopes à pas cher, et protecteur du domaine de Chambord. C'est lui qui met en fuite Stéphane Bern quand on le surprend à se masturber devant le château en murmurant « Je pense à toi, François Ier ». Bref, Macron, on ne sait plus si on doit l'appeler Monsieur le Président, Monseigneur le Chanoine, Manu, ma belette lustrée si on est très proche de lui. Demain, il peut faire une rêve, après-demain s'enfermer dans un monastère. Il est comme Madonna qui porte un gros crucifix sur ses photos où elle se touche. Un monstre d'ambiguïté.
Tanguy Pastis.
La bande originale. Qui est toujours avec nous, Zep pour The End, rue de Sèvres. Je rappelle rapidement l'intrigue pour ceux qui nous rejoignent. C'est votre troisième album d'ailleurs. J'ai parlé tout à l'heure d'un bruit étrange et beau, avec cette atmosphère monacale qu'on avait beaucoup aimé. Il y avait aussi une histoire d'homme. Mm-hmm. Et cette fois-ci, Zep, vous vous attelez à l'environnement, à l'avenir, à l'espèce, à la survie, avec ce thriller, avec ce jeune Théodore qui rejoint un savant, un chercheur, toute une équipe, et qui commence à observer des phénomènes assez anormaux. animaux, voir une nature qui se dérègle, qui ne se comporte plus comme avant, les animaux qui ne sont plus méfiants. Et tout d'un coup, un certain nombre de phénomènes étranges vont se multiplier au point qu'on va se demander, mais qu'en sera-t-il de l'avenir de l'homme ? Je me demandais, quand on parle de vous dans les interviews, certains journalistes parlent d'une sorte de dichotomie, une sorte de schizophrénie artistique, Titeuf d'un côté, ses trois albums de l'autre. Qu'est-ce que vous, vous cherchez à développer dans ce travail-là de Zep, avec ces trois albums-là ? Pas Zep Titeuf, mais Zep ici.
Je me suis aperçu que j'avais envie de raconter d'autres histoires. Ouais. Pendant des années, j'ai fait que des histoires comiques. Et je me suis aperçu avec le temps que j'avais aussi envie de raconter d'autres choses, mais que mon dessin ne collait pas. Donc j'ai adapté mon dessin pour raconter ces histoires-là. Mais c'est toujours le même trait. Enfin, pour moi, ce n'est pas, c'est pas vraiment différent. Et puis, c'est mon 53e album. J'ai fait 15 albums de Titeuf, donc il y a beaucoup d'autres choses. C'est pas Titeuf et d'un côté ses albums réalistes, mais effectivement ce dessin est un peu différent et il est plus étonnamment pour moi il est plus facile presque celui-là.
D'accord,
il est plus rapide.
Que Titeuf.
Ouais, ouais. Parce que Titeuf c'est de la miniature, il y a quelque chose de, il y a tellement peu de choses sur le visage de Titeuf que pour que l'expression soit juste, ça se joue vraiment à je dirais presque à un micropoil, le placement de sa pupille, enfin va changer le gag, tient un peu de choses, tandis que là on est dans un dessin plus un peu plus lâché, un peu plus libre.
Et d'un album à l'autre, est-ce que vous imposez une forme d'évolution, un souhait ? On parlait tout à l'heure avec Chatterton du deuxième album. On n'a pas envie à la fois d'être exactement dans le sillon du précédent, mais pas non plus diamétralement opposé, sans quoi on perd tout le monde. Est-ce que c'est une préoccupation aussi de dessinateur ?
Oui, mais c'est lié à ce qu'on raconte, en fait.
C'est la thématique qui fait changer.
Ouais, donc le dessin s'adapte, et puis... Le trait qu'un dessinateur a, c'est comme sa voix. On peut pas aller contre. Moi, j'ai ce trait-là qui est extrêmement, qui a un côté très minutieux, très précis. C'est-à-dire que si je dessine un arbre, je vais dessiner, pas dire que je dessine toutes les feuilles, mais enfin, j'ai un peu tendance à avoir un dessin comme ça, besogneux. Parfois, j'adorerais avoir un dessin comme Hugo Pratt, par exemple, qui faisait un coup de pinceau et il disait, il dessinait Venise, c'était deux coups de pinceau, puis il disait, c'est Venise. Et tout le monde disait, putain, c'est Venise, ça y est. Moi, si je dessine Venise, je dois dessiner les tuiles des baraques, ça me prend des heures. Mais bon, voilà, c'est mon dessin.
Faire un bouquin sur les arbres, c'est complètement dingue alors, c'est suicidaire.
Oui, mais j'adore dessiner ça, donc et ça me plaît. Le trait qu'on développe, il est lié à nous, mais c'est vrai que la personne qu'on est, elle change aussi entre 15 ans quand on commence à faire son premier bouquin et puis 50 ans. Donc il faut que le trait continue à évoluer, comme la voix aussi va changer au cours de la vie.
Mais ça tombe bien, la voix aussi, il va en être question tout de suite avec Chatterton de retour pour
Arthur, Raphaël, Sébastien, Antoine et Clément qui vont nous interpréter Les Ruines. Feu Chatterton dans la bande originale.
Parmi les ruines, oui, je reviendrai à Érussel, balai de mon asile, vieil oiseau rôdeur dans une pierre grise. Et sous la pluie battante, tu m'as dit va-t'en. Oui, sous la pluie battante, va-t'en, en t'écoutant les yeux clos. J'ai repensé à la mer en t'écoutant bien. J'ai vu la mer. Un jour je reviendrai à l'endroit où nous vécûmes, quand il n'y restera plus rien de nos vieilles rancunes, plus rien de l'odeur de ta chevelure. Et sous la pluie battant, tu m'as dit non, attends. Oui, sous la pluie battante, attends. J'ai l'espoir encore que la foudre nous frappe comme autrefois. J'ai dit non, écoute, elle ne frappera pas, ne nous frappera pas. la pluie battante, je m'en suis allé. Oui, sous la pluie battante, je suis allé. Vers l'aube en te tournant le dos, craignant de penser à l'après. Midi de janvier, où l'on s'est connu. Un jour je reviendrai me promener parmi les ruines. Sûr je reviendrai sur mes pas, oui mais pas tout de suite. Voir l'oiseau rôdeur et la pierre anthracite. Vieil oiseau rôdeur dans une pierre grise. Vieil oiseau rôdeur dans une pierre grise.
Bravo. Peu Chapter Tone dans la bande originale.
L'élégance. D'ailleurs, je vais faire la remarque, l'oiseleur, c'est le nom de l'album, l'oiseau tout à l'heure, là encore question d'oiseau, ça donne une petite dimension mystique, quoi, comme si on était avec les auspices, les augures qui observent le vol des oiseaux, c'est un peu ça?
Oui, c'est l'oiseau qui revient soit du passé nous rappeler le paradis perdu, ouais, soit du futur avec le rameau nous dire la terre promise.
Alors on va regarder s'il passe par la droite ou par la gauche, si c'est bon ou mauvais signe. Absolument. Merci beaucoup les garçons. Merci bravo. Arthur et bravo pour ce très bel album. Et on vous retrouve en tournée, toutes les dates sur le site. Et j'ai la date parisienne quand même, le Zénith, ça se donne, hein, Zénith, c'est le 24 janvier. Merci les garçons.
Bravo.
Merci.
Bravo, 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 merci. La bande originale. Sur France Inter. Bande originale avec Zep pour The End aux éditions Rutsen. Ah, je me ferai pas avoir de
ça. Bien, t'articules hyper bien, c'est très très beau, bravo, bravo.
Lui, il articule avec beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est l'heure de retrouver Pépito Guiz.
Hey yeah. Bonjour les amis.
Bonjour.
Non. Salut.
Salut. Merci.
Cette nuit, j'ai fait un cauchemar atroce. J'étais Daniel Auteuil et toutes les semaines, je jouais dans le remake des Sous-Doués. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais éveillé et que je repensais juste à ma saison dans la bande originale. Ça surnomme l'émission Tuche. En hommage à Tuche pas à mon puste. Non, elle est pas de moi cette vanne. Elle est Jean-Baptiste, notre rédacteur en chef, qui aime les jeux de mots parce qu'il se sent seul.
Faut laisser tomber. Ouais. Ouais.
Ouais, c'est compliqué. On mettra sa photo sur le site de l'émission et vous comprendrez tout.
Mais bon, je vous aime bien quand même malgré la quantité inouïe de MST que vous ramenez dans cette émission, comme si c'était des enfants en bas âge. Je voudrais adresser quelques remerciements pour ma toute dernière chronique de l'année.
Non, de la vie. De la vie.
Merci. Merci à Nagui, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui parce qu'il a décidé de se consacrer full time à ses plantations de coca. Très futé. Faire croire qu'on est en Russie alors qu'on est à Bogota pour négocier la libération d'une de ses mules. Merci à Nagui, grâce à qui j'ai retrouvé le sommeil. Aussi, au lieu de compter les moutons, désormais, dans ma tête, je me repasse ces questions. Alors, arrivé au neuvième verbe, je suis déjà dans mon sommeil paradoxal. Tremble l'industrie du somnifère. Merci aussi à mon ami Albert Algou et sa camionnette Bâche et Cuir, qui fait aussi palais de justice, club maître de fortune et abattoir pour animaux prépubères. Albert Algou et son personnage de Père Albert, qui a su faire finalement de la pédophilie une discipline, somme toute, assez cool, finalement.
Mais je peux te ramener après l'émission.
Et dont on peut faire ouvertement la promotion dans cette émission. À sa décharge, notre public est tellement loin de l'enfance en général ici que personne ne risque rien, clairement. Venez l'année prochaine, Albert, avec un personnage gérontophile. On verra si ça fait autant marrer les gens dans le studio.
Ah, peut-être.
Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Il y a un feu Chatterton, c'est parce que ça fait du bruit. Merci à Tanguy Pastureau aussi, qui a atteint la barre symbolique du million de vannes. Il a déjà fait deux autres chroniques cette semaine. Vraiment. Tanguy qui a vidé l'océan de toutes les blagues. Vraiment. C'est un chalutier japonais. Moi, je suis un pédalo. J'ai ramené du plastique et un soulier. Voilà, bon. Merci aussi à Alison Wheeler. Vraiment. Je rappelle que parmi les 10 membres de l'équipe studio, seuls 3 sont titulaires d'un utérus. Et à la décharge de France Inter, c'est une émission qui a été conçue avant l'affaire Weinstein. On ne savait pas l'égalité de ces trucs-là.
On compte double, non?
Ouais, tous ces trucs de junkie. En parlant de junkie, merci aussi à Leïla Kadour-Boudadi. Voilà une femme sublime, brillante, sensible, élégante, intègre, cultivée, engagée, qu'on associe ce matin à quelqu'un comme Daniel Morin. C'est le coup du ketchup dans le caviar.
C'est vrai.
Elle est délicate. Lui, il mange des reptiles. Elle a été à l'école. Elle a été à l'école. Lui, peut-être. Pas savoir. On ne sait pas. Hein. C'est difficile. Elle sent bon, lui. Il sent Daniel. Alors, merci à Daniel Morin. Daniel Morin, l'homme grâce à qui Tex garde encore espoir aujourd'hui. Il écoute Daniel, il dit « Je reviendrai, tout est possible ». Blague à part, merci Daniel vraiment d'avoir enduré toutes mes blagues cette année. Qui aime bien, châtie bien. Je crois qu'on peut pas dire mieux.
Tu m'adores.
Merci. Et je veux dire à tous les gens qui m'ont demandé vraiment sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai ce que vous dites sur l'hygiène de Daniel Morin?
C'est vrai.
Sachez que oui, et encore j'ai du corps. Allez, à l'année prochaine. Merci à l'équipe studio, à l'équipe derrière et à Delphine en particulier. Et à bientôt. Ciao, ciao, les amis.
Merci.
Bravo, Guillermo. La bande originale. Tu es toujours en spectacle?
Non,
tant mieux.
Non, mais c'est parfait.
Et merci à toi.
L'année prochaine au Bataclan, bien sûr, on va pas te louper, mon chéri.
Zep est avec nous pour son excellent album The End aux éditions Rue de Sèvres.
Alors, que nous réserve l'avenir, Zep? Alors là, il y a cet album, il y a l'accueil qui est un très bel accueil, public, critique. Vous retournez bientôt au crayon?
J'y suis retourné là. En
ça
fait,
y est.
J'ai commencé.
À nouveau.
Alors deux projets. Un avec un dessinateur qui s'appelle Dominique Bertaille, qui est un magnifique dessinateur réaliste.
Ah, qui est formidable.
Voilà, et c'est une histoire qui se passera à Paris dans 100 ans et qui s'appellera Paris 2119.
Mais ça, vous allez faire un truc à deux.
Ouais, enfin j'ai écrit l'histoire et c'est lui qui va la dessiner.
Et pourquoi?
Ce sera une histoire d'anticipation.
Ouais, génial. Et pourquoi ne pas pourquoi le faire à deux? Enfin, c'est très bien, mais pourquoi ne pas mener tout seul?
Parce que j'aime le dessin de Dominique et qu'il peut dessiner des choses que je suis incapable de faire.
D'accord.
Donc voilà, j'ai écrit cette histoire et en pensant à son dessin. Et puis j'ai recommencé un deuxième tome d'un album que j'avais fait il y a 10 ans qui s'appelle Happy Sex. C'était un album pour adultes,
qui avait cartonné,
de comédie.
Qui
ouais.
avait
et je trouvais que c'était rigolo de refaire des chroniques sur le quotidien sexuel 10 ans après, parce que
bon,
même si
change.
A priori c'est la même manière de faire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc il y a
pas mal
de choses à raconter.
C'est un album qui avait connu un grand succès. Je crois que c'était plus de 400 000 exemplaires.
Ouais, ouais.
Enfin, ça a continué entre temps. La sexualité, la bande dessinée, il y a un truc.
La sexualité continue.
La sexualité continue. Et comment on aborde la sexualité aujourd'hui?
Ça te regarde pas?
Différemment. Bah, si ça m'intéresse, figure-toi. Pourquoi je me documenterais pas un peu?
Avec des pilules.
Après le zizi sexuel, après, on fait la version.
Mais en fait, j'avais fait Happy Sex suite à l'exposition du zizi sexuel. Parce que j'avais travaillé sur cette exposition pendant 2 ans, qui était parler de la puberté, de l'amour, des questions de la sexualité qui pouvaient être anxiogènes, mais pour les enfants.
Mm-hmm.
Et je me suis dit, ce serait marrant de faire quelque chose là, réservé aux adultes, et de faire un album de gag autour de ce sujet qui est quand même assez central dans nos vies. Et pour finir, assez peu utilisé dans la bande dessinée. Il y a beaucoup de bandes dessinées pornographiques, enfin érotiques. Mais de bandes dessinées disons qui racontent le quotidien, avec quelque chose de plus de comique, mais qui a pas une volonté érotisante. Il y en a un peu plus maintenant, mais à cette époque, il n'y en avait pas tellement. Peut-être pas même.
Et le prochain titre-off, je suis obligée de demander.
Alors, ce sera après. Donc, en 2020, je pense.
Les Zep qui est aussi dans le don, dans le partage, Albert Algou, si je ne m'abuse, puisque il vous a donné un dessin pour les cœurs simples. Ben, pouvez-vous rappeler ce que c'est que les cœurs simples?
C'est un florilège de textes littéraires de Balzac, Azola, Maupassant, Ramu, Steinbeck, Giono, qui mettent en scène des simples d'esprit, des crétins, des âpes, des autistes. Et chaque texte est illustré par un grand auteur de BD. Ça va de Bilal à Zep, passant par Guéluc, Cabu, Juillard, mon copain Charme, Loustal, Tardy, etc. Et c'est au profit de La Bonne Aventure, qui est un fonds de dotation qui aide des adultes autistes en grande difficulté.
Merci
à Zep. Ça s'appelle Les cœurs simples et c'est chez Casterman.
C'est un très beau livre en plus. Ça permet de voir enfin l'évolution de notre vision par rapport aux personnes dites handicapées ou différentes, et c'est vachement intéressant.
Merci
encore à Zep.
Ouais, merci à vous Zep d'être avec nous, et surtout votre calvaire va bientôt prendre fin, mais d'abord on va vous présenter quelques excuses.
Alors, évidemment, nous sommes un peu obligés. Je suis déjà désolé pour Zep, pour Zidane et tous les déplumés dont le nom commence par Z et qui sont retombés en dépression en repensant aux cheveux qu'ils ont eus et à ceux qu'ils vont perdre encore. Ça va, je vous le redis, hein, c'est has-been les cheveux, c'est ringard, hein, Alison. Désolé pour tous les optimistes qui nous écoutent et qui ont bien compris, grâce à Zep, que ça ne servait à rien d'être optimiste. La fin est proche, les gars, on va tous y passer, hein, Alison. Et désolé pour tous les chiens qui nous écoutent et qui avaient prévu, comme d'hab, d'aller pisser contre un arbre lors de la prochaine promenade. Vous l'avez compris, les clébards, ça devient dangereux maintenant. Hein, Alison?
Merci à tous, merci d'avoir été à l'écoute de la bande originale sur France Inter. Demain, on retrouve Nagui.
Demain, le petit revient, pour accueillir Laurent Lafitte.
Moi je me réjouis.
Ouais, tant pis. À demain, on retrouve maintenant Philippe Bertrand et les carnets de campagne. Salut Philippe.
Yes, it is. Salut Daniel, salut Leïla, salut tout le monde.
Salut.
Et il a bien fait d'aller en Russie, hein, le taulier, vu ce qu'on a vu hier.
Il s'est pas déplacé pour rien.
Sauf que si on gagne la Coupe du Monde, vous allez être hyper jaloux parce qu'il aura suivi ça tous les matchs. Et ça sera pas mal, même un match moyen. Mais c'est pas grave, on continue le chemin, allez, faut être derrière les bleus.
Faut être là dans les mauvais moments.
Ouais.
D'accord.
Très bien.
On peut y aller?
Oui.
Salut.
Bonne émission.
Salut les amis.